Bonjour à tous. La hausse des indicateurs virologiques Covid-19 relevés depuis début juin en Nouvelle-Aquitaine s'est poursuivie la semaine dernière. Le taux d'incidence atteint 421 cas pour 100 000 habitants, soit une hausse de 30% par rapport à la semaine précédente. L'accélération de la circulation virale concerne toutes les classes d'âge, cependant elle est plus élevée chez les adultes âgés de 40 à 60 ans. Dans ces classes d'âge, le taux d'incidence est désormais supérieur à 500 pour 100 000 habitants. Cette accélération concerne tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Gérédis met en garde contre le démarchage abusif et les escroqueries et appelle à la plus grande vigilance. Des clients ont en effet signalé qu'ils avaient été démarchés par des personnes se faisant passer pour des salariés de Gérédis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en Deux-Sèvres. Ces personnes proposaient de prendre un rendez-vous à domicile pour regarder leur compteur, invoquant un problème de consommation anormale ou d'installation. Il s'agit bien d'une escroquerie. Les véritables agents de la société sont en mesure de présenter une carte professionnelle avec leur photo et le logo de la société. De plus, les vêtements professionnels et les véhicules de service portent également tous ce même logo. En cas de doute ou pour toute personne confrontée à cette pratique, Gérédis vous invite à appeler le 05 49 08 54 12.
La grande famille des pompiers de Sévrien se retrouve toute cette journée à Montcoutant-sur-Sèvre.
Et ce, à l'occasion de la journée départementale. La commune avait déjà accueilli la journée des jeunes sapeurs-pompiers en 2013, mais cette fois elle sera le théâtre d'un vaste congrès qui se déclinera en matinée par un aspect plus solennel et protocolaire avec l'Assemblée Générale de l'Union Départementale suivie des discours des officiels. Le grand public est lui attendu dès 14h cet après-midi pour toute une série d'animations, de démonstrations et d'initiations. Le lieutenant Frédéric Ouvrard, adjoint au chef de centre de Montcoutant-sur-Sèvre.
On va retrouver donc plusieurs ateliers, donc des ateliers spécifiques sapeurs-pompiers. Donc on va pouvoir enseigner des gestes de premier secours, connaître le cul du petit sauveteur, on va pouvoir faire l'utilisation d'extincteurs. Le public pourra également faire de la simulation de conduite, donc il y a tout un atelier sur la sécurité routière. Pouvoir également monter dans certains camions. On aura également un atelier, deux ateliers où on va pouvoir, où le public va pouvoir se rentrer dans des locaux un petit peu enfumés pour voir un petit peu comment évoluent les pompiers dans ce genre de sinistre. Quelques activités ludiques, donc on aura une petite course de rentation dans le bourg de Montcoutant, donc voilà, dédié un petit pareil au monde des pompiers. On aura une structure gonflable, on aura un graphe qui va être réalisé par Benoît Savin, où du coup les enfants vont pouvoir participer avec lui pour faire un graphe géant, pareil sur le thème de la journée. Et donc après en parallèle, on a donc sur le stade de Montcoutant, on a tout le rassemblement technique des jeunes sapeurs-pompiers, donc qui se fait tous les ans. Donc rassemblement technique où donc nos 300 JSP vont effectuer des concours de manœuvres, donc manœuvre incendie, manœuvre de secourisme, qui vont emmener à un classement et pour les meilleurs. Après, pourront participer au rassemblement national qui a lieu dans 15 jours.
Le lieutenant Frédéric Ouvrard, adjoint au chef de centre de Montcoutant-sur-Sèvre, la commune qui accueille donc ce samedi toute la journée ce grand rassemblement des pompiers de Sévrien. Le grand public est attendu dès 14h. Des pompiers affectés par la disparition de leur patron, le colonel hors classe Pascal Moine, décédé après un accident de paramoteur le week-end dernier. Une cérémonie d'hommage en son honneur s'est tenue ce vendredi soir à la direction départementale à Choret.
La ville de Bressuire mène actuellement toute une réflexion sur les bâtiments des archives municipales.
Depuis 2003, ce service est installé dans les anciens locaux de la Chambre d'agriculture Allée du Lavoir. Malgré divers aménagements, le bâtiment ne permet pas la conservation des documents dans des conditions optimum. Les magasins arrivent en effet à saturation et ne répondent pas aux normes réglementaires en termes d'hygrométrie ou encore d'éclairage. De plus, le site actuel ne dispose pas de salle de tri ni de salle de lecture. Un comité de pilotage et un comité technique ont donc été mis en place pour réfléchir à son déménagement. Emmanuel Ménard, maire de Bressuire, au micro-colline de Patrice Bémanangy.
Nous avons amélioré le bâtiment, nous essayons d'améliorer les locaux le plus possible, mais les archivistes qui sont là-bas ont encore besoin d'amélioration parce que nous avons en plus maintenant les archives de nos communes déléguées qui arrivent, et puis il faut quand même que l'ouverture au public soit améliorée par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors nous étudions, nous en sommes qu'à l'étude aujourd'hui, nous étudions l'ancien site de l'école Gilles Ferry, ou le site de l'école Gilles Ferry, où nous avons toute une aile qui pourrait correspondre au niveau métrage, j'allais dire, mais nous allons rencontrer des personnes de la DRAC et du CIAF pour nous aider techniquement sur ce dossier.
Le CIAF étant le service interministériel des archives de France, Emmanuel Ménard, maire de Bressuire.
En bref, Vincent.
Pour faire face à l'augmentation du coût des factures, les communes s'adaptent. C'est aussi le cas pour Bressuire. Pour cela, les créneaux de l'éclairage public vont donc être modifiés. Dans les communes déléguées et le quartier de Saint-Porchère, l'éclairage public sera coupé du dimanche soir au vendredi soir de 23h à 6h sur l'ensemble des axes, sauf autour des salles des fêtes où dans la nuit du samedi au dimanche, l'éclairage sera coupé à 1h. Dans Bressuire-Ville, l'éclairage public sera coupé dans l'hypercentre du dimanche soir au vendredi soir de minuit à 5h. Dans la nuit du samedi au dimanche, dans l'hypercentre et autour des salles des fêtes, la coupure sera, elle, de 1h à 5h. L'éclairage public sera éteint dans les quartiers résidentiels de 23h à 6h. Cependant, la municipalité rajoute que des contraintes techniques pourront entraîner quelques ajustements. La douzième édition des Arrosés, qui signe le retour des musiques urbaines à Thouars, a été lancée hier soir vendredi à l'esplanade du château. L'affiche a attiré de nombreux amateurs de la région pour applaudir Bastong, MB14 et La Petite Fumée et les démonstrations de breakdance. Ce soir, la scène prévoit d'accueillir des pointures telles que HK, L'Entourloupe, Ta, Trick, Kaz, sans oublier V3, KA et Kuma. Des entrées sur place de 5 à 8 euros. Et puis on vous rappelle qu'en raison des mauvaises conditions météo annoncées, la pluie aujourd'hui, le cinéma de plein air proposé ce samedi soir au stade Jules Ferry par le conseil citoyen du quartier de Valette à Bressuire est annulé.
Ce week-end, Vincent, est marqué par le retour du Courliton.
Après deux années d'absence, comme bon nombre d'animations et de manifestations pour cause de restrictions sanitaires, le Courliton est donc de retour demain dimanche. Pour cette reprise, l'AREC, comprenait l'association des randonneurs équestres de Courlay, peut se satisfaire de l'inscription d'une vingtaine d'équipes contre 24 lors de la précédente édition. Preuve de l'engouement pour ce rallye qui allie cavaliers, coureurs à pied et vététistes sur les très beaux chemins creux courlitais. Pauline Brément, la présidente de l'AREC, au micro-colline de Patrice Bémalangy.
C'est une équipe de 3 personnes avec un cavalier, un coureur et un vététiste. Donc le couple cavalier et coureur reste ensemble pendant toute la course. Là c'est sur une douzaine de kilomètres à peine. Tandis que le VTT à un moment donné au niveau de la course, il prend un autre parcours pour refaire à peu près une 22 kilomètres cette année. Et juste avant de franchir la ligne d'arrivée, enfin le tour du plan d'eau, au niveau de la salle des fêtes, on a un point stop. Et donc là, il faut que l'équipe soit complète avant de continuer la course. Il faut que l'équipe soit au complète avant de franchir la ligne d'arrivée.
Est-ce chronométré ?
Oui, c'est chronométré. Après, avant tout, on cherche vraiment une bonne ambiance. Après, il y a toujours des personnes qui viennent pour le podium. Mais avant tout, c'est vraiment pour se faire plaisir et profiter et passer un bon moment.
Pour cette 30e édition du Courliton, l'association organisatrice a décidé de donner un coup de pouce à l'AFEP 85, l'association des familles d'enfants polyhandicapés de Vendée, en lui reversant une partie des bénéfices. Pauline Brément.
C'est Laura et sa fille Amy qui ont créé, entre guillemets, une association. Et c'est une association qui va créer un centre de loisirs pour enfants polyhandicapés. On l'a connue, on va dire, cette année, cette association. Nos deux associations, on a un ami, entre guillemets, en commun, Marc Gauguin, donc je fais un petit coucou. On veut vraiment aider cette association. Et là, ce sera le premier centre de loisirs en France.
C'est un centre qui va se créer en Vendée ?
Oui, oui. Dans un premier temps, ils ne savent pas encore dans quelle commune c'est. Tout dépend aussi le bâtiment, parce qu'il faut quand même assez d'espace. Donc ils ne savent pas encore, mais pour l'instant c'est en Vendée. Et après j'espère que par la suite ils veulent que ce soit dans chaque département.
Le Courliton, c'est donc ce dimanche à Courlay. N'hésitez pas à vous y rendre dès le début de la matinée pour l'ambiance, certes, mais également pour la bonne cause.
Et on enchaîne, Vincent, naturellement avec l'actualité sportive. On commence par un titre.
Celui obtenu hier par Hugo Hay lors des championnats de France d'athlétisme à Caen. Sur 5000 mètres, le sociétaire du SBAC s'est imposé en 13 minutes 54 secondes et devient donc champion de France une nouvelle fois. Mais ce titre n'efface pas, bien sûr, la déception du week-end dernier à Charletti et cette non-qualification pour les mondiaux mi-juillet. Réponse, néanmoins, en début de semaine prochaine pour un éventuel repêchage. Et Magiquel, quant à elle, alignée sur le 400 mètres, a pris la 6e place de sa série. Pas de qualif donc pour la finale, mais déjà de l'expérience engrangée pour celle qui n'est, rappelons-le, que junior première année. Quant aux deux autres athlètes de Sévrien engagés dans ces championnats de France, le sauteur du SBAC Sébastien Michaud et le Niortais Nathan Proust au javelot débutent leur concours en fin d'après-midi.
Des signatures de contrat, vous signalez également.
Celle de T.J. Campbell à Cholet Basket, l'américain de 34 ans qui avait grandement participé à la métamorphose de l'équipe Choletaise en deuxième partie de saison, prolonge avec les Rouges et Blancs pour une saison supplémentaire. Un départ acté, c'est celui de Nianta Diarra qui évoluera la saison prochaine à Orléans en Pro B. Côté foot, celle du défenseur Darling Young Longois est désormais officiel, on vous en parlait cette semaine. L'ex-chamois a signé pour 4 ans au FC Lorient, un club de Ligue 1, transfert qui se serait réalisé sur la base de 1,5 million d'euros.
Et des rendez-vous sportifs également ce week-end.
Avec du foot et les finales de Coupe, de Challenge et de la Coupe Angélique pour les catégories U13 à U17, reportées la semaine dernière pour cause de canicule. Elles auront lieu ce samedi 25 juin à Beauvoir-sur-Niort. Pas moins de 10 matchs sont programmés de 10h30 à 17h30 avec une météo beaucoup plus propice à la pratique du foot, même si je pense qu'il faudra peut-être changer les crampons. Du hand également tout ce week-end au complexe sportif de Sainte-Verge où l'US Tour Handball accueille les finales de la Coupe des Deux-Sèvres de handball, des moins de 13 jusqu'aux seniors. Un comité départemental qui en profite pour tenir en ce moment même son assemblée générale au lycée Jean Moulin. Avec du cyclisme également, le Cholet, capitale du cyclisme jusqu'à dimanche, avec la course des professionnels demain, avec le Niortais Tom Minguenaud. Les féminines, quant à elles, s'élanceront cet après-midi avec parmi les engagés la Deux-Sévrienne Colline Rabhi, originaire de François. Place ce matin à l'épreuve en ligne pour les élites 1 amateurs. Le départ a été donné à 8h45 pour 8 tours de 20 km. Et parmi les nombreuses équipes engagées figurent Côte d'Armor Marie Morin, qui logeait tout près de Colline au Cerisay. L'un de ses directeurs sportifs a bien reconnu le tracé, même si, selon lui, le facteur météo pourrait avoir un rôle à jouer. Sébastien Coitier.
J'ai fait un petit tour hier matin et la partie sur la Séguinière, c'est très très technique. Alors on dit que le circuit n'est pas dur, mais avec il y a beaucoup de relances, quand ça va être en file indienne, ça va quand même user. Et puis pour les amateurs, ils lancent de l'eau samedi, donc c'est encore un élément qui déterminant pour durcir la course. Ouais. Un petit peu de vent, mais c'est surtout sur les parties techniques. S'il pleut, pour moi, il va y avoir beaucoup de cassures. Donc on va voir. Après un championnat, c'est difficile d'imaginer un scénario. Il peut y avoir une course d'attente et puis arriver à un gros groupe au sprint, comme une course relativement dure pendant 4 heures. Et puis après, avoir une course justement où avec beaucoup de cassures. Et puis si vraiment il pleut, ça va jouer. Ouais.
Et il a plutôt bien vu le directeur sportif Sébastien Coitier, puisque des cassures il y en a. On a suivi le début de course avec une moyenne horaire très élevée, 45 km/h, de la pluie et également quelques chutes en raison de cette météo. Si vous devez circuler sur Cholet et ses alentours, veuillez à prendre vos dispositions. Les infos sur le site de la ville cholet.fr ou bien un numéro vert à votre disposition 0805 700 807.